Bonjour. Rolly l'a dit, que nous puissions écouter la parole, c'est ce que nous voulons, et qu'elle puisse pénétrer dans nos cœurs ce matin. La manière dont Dieu nous montre son amour, c'est qu'il veut nous changer. Même si nous avons tout raté, même si nous pensons avoir gâché notre vie jusqu'à présent, avoir fait tout de travers, j'espère que le texte de ce matin, la parole de Dieu, va pouvoir vous convaincre que Dieu veut encore vous changer, qu'il veut encore me changer, qu'il n'est jamais trop tard. Nous parcourons le livre d'Esther ensemble, et la semaine dernière, Stéphane, la prédication est sur le site, a planté le décor et nous a expliqué quel était le contexte. Le peuple d'Israël avait été déporté à cause de sa désobéissance et s'est retrouvé emporté par les Perses, je fais un raccourci. Et nous suivons dans le livre d'Esther la vie d'Esther et de son oncle Mardoché, qui vivait à Suse, la capitale, une des capitales de l'Empire de Perse. Et Esther, vivait là-dedans, et il se trouve que Esther s'est retrouvée, suite à des compromissions, nous l'avons vu la semaine dernière, comme à être nommée reine. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'il va arriver quelque chose à laquelle ni elle ni Mardoché ne s'attendaient. Nous allons lire le chapitre, à partir du chapitre 2, verset 19, je vous invite à prendre vos Bibles tout de suite, et nous allons aller jusqu'au chapitre 4, verset 17. Les chapitres sont courts, mais il y a quand même pas mal de matière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord lire le chapitre 3, faire quelques commentaires, puisqu'il est là pour planter le décor, ce chapitre. Mais celui où nous irons plus en profondeur dans l'enseignement, ce sera le chapitre 4. Donc je vous invite à prendre dans le livre d'Esther. Pour ceux qui ont besoin d'une Bible comme celle-ci, vous le trouverez, ce texte, à la page 345. Donc je lis à partir du chapitre 2, verset 19. La deuxième fois qu'on rassembla des jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. La porte du roi voulait dire qu'il était dans la cour du roi. Mardoché était quelqu'un qui avait un rang assez élevé. Esther n'avait toujours pas révélé ni sa famille, ni son origine, car Mardoché le lui avait interdit, et elle respectait ses ordres comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. À ce moment-là, Mardoché était donc assis à la porte du roi. Bigthan et Teresh, deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée, eurent un mouvement d'irritation et cherchèrent à porter la main contre le roi Assuérus. Mardoché en fut informé et le révéla à la reine Esther, qui parla de sa part au roi. L'information fut vérifiée et confirmée, de sorte que les deux eunuques furent pendus à une potence. Tout cela fut enregistré par écrit dans les annales en présence du roi. Après ces événements, le roi Assuérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Aman, fils d'Amédata, l'Agagite. Il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Aman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Mardoché, cependant, ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi lui dirent « Pourquoi enfreins-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils informèrent Aman de son attitude pour voir s'il persisterait à sa décision. En effet, il leur avait dit qu'il était juif. Aman s'aperçut qu'effectivement, Mardoché ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui. Et il fut rempli de colère. Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardoché seul. En effet, on lui avait révélé que le peuple, à quel peuple celui-ci appartenait, et il chercha à exterminer tous les Juifs installés dans tout le royaume d'Assuérus, à savoir le peuple de Mardoché. La 12e année du règne d'Assuérus, le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et chaque mois successivement, et le sort désigna le 12e mois, c'est-à-dire celui d'Adar. Si vous ne comprenez rien à ce verset, c'est normal, je vais vous l'expliquer, ne vous inquiétez pas. Ne décrochez pas maintenant. Aman dit alors au roi Assuérus, « Il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume un peuple unique, bien que dispersé, qui reste bien à part parmi les peuples. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et n'applique pas celles du roi. Le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. Si donc tu le juges bon, qu'on donne par écrit l'ordre de les faire disparaître. Ce sont 300 tonnes d'argent que je remettrai aux fonctionnaires pour le trésor du roi. » Vous remarquez, il ne mentionne pas les Juifs. Il parle d'un peuple, il ne dit pas de qui il s'adresse. Ça aura son importance pour plus tard. Le roi retira l'anneau de sa main et le donna à Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, qui était l'adversaire des Juifs. Vous voyez l'insistance qu'il y a pour répéter qu'il est l'adversaire des Juifs ? Et il lui dit, « L'argent et ce peuple sont à ta disposition, fais-en ce que tu voudras. » On convoqua les secrétaires du roi le 13e jour du premier mois et l'on écrivit un message en tout point conforme aux ordres d'Aman et adressé aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province, dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue. Le message fut écrit au nom du roi Assuérus et on y apposa l'empreinte du roi. Si ça vous ennuie, c'est de l'administratif, c'est normal. Mais on est français, on a l'habitude. Les autres furent envoyés par l'intermédiaire de coursiers dans toutes les provinces du roi. Ils disaient qu'il fallait en un seul jour, le 13e jour du mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, exterminer, massacrer et supprimer tous les Juifs, jeunes, vieux, petits-enfants et femmes, et procéder au pillage de leurs biens. Une copie du document devait être donnée avec force de loi à chaque province et être communiquée à tous les peuples afin qu'ils soient prêts pour ce jour-là. Les coursiers partirent sans tarder sur ordre du roi. L'édit fut ainsi proclamé à Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman s'installaient pour boire, la ville de Suse était plongée dans la consternation. Je m'arrête ici. Je le reconnais, pas un des chapitres les plus passionnants de la Bible lorsqu'on le lit comme ça, mais vous allez voir que ce chapitre, en fait, est merveilleux. Nous y découvrons un nouveau protagoniste dans cette histoire, le grand méchant de ce texte-là, de cette histoire du livre d'Esther, qui s'appelle Aman. Aman voit que Mardoché, qui est juif, refuse de se prosterner devant lui. Et décision tout à fait logique. Il décide de le tuer, mais en plus de faire tuer tout son peuple. N'est-ce pas un peu excessif ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas totalement fou une telle décision ? Pourquoi est-ce que Aman voulait faire cela ? Au chapitre 3, au verset 1, nous lisons qu'Aman était un Agagite. Autrement dit, un descendant, quelqu'un de la famille du roi Agag. Le roi Agag était le chef du peuple, un roi des Amalécites. Pour bien comprendre la cause de cette haine, eh bien, il nous faut faire un tout petit peu d'histoire et vous allez voir que ça va être lumineux dans quelques secondes. Les Amalécites étaient un peuple d'origine du sud de la terre promise. Et les Amalécites vivaient là et ils furent les premiers à attaquer le peuple d'Israël quand celui-ci fut délivré d'Égypte et qu'il était dans le désert. Et les Amalécites livrèrent une guerre contre les Juifs. Dieu donna alors l'autorisation à son peuple de les attaquer et de les exterminer. Et Dieu a fait une promesse en Exode chapitre 17 qu'il détruirait tout le peuple d'Amalek. Bien plus tard, lorsque le peuple fut installé dans cette terre promise, leur premier roi, le roi Saül, s'attaqua aux Amalécites. Donc le roi des Juifs attaqua le roi des Amalécites, qui s'appelait Agag. Et Agag fut tué par les Juifs. Vous comprenez ? Il se trouve que le descendant de ce peuple-là qui a été attaqué par les Juifs se voit en face de lui un Juif qui en plus ne veut pas se prosterner devant lui. Et il y a un antagonisme historique avec Mardoché, mais avec tout son peuple. Et c'est pour cela qu'il veut les détruire. En plus, ce Mardoché refuse de s'incliner devant lui. Je pense que c'est plus par un orgueil nationaliste que par motif religieux. Et nous avons aussi dans ce texte le fameux verset que je vous ai commenté, enfin je vous ai dit que c'est normal que si vous n'y comprenez rien, c'est le verset 7. Ce verset, je le relis rapidement. La douzième année du règne d'Assuérus, le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et chaque mois successivement, et le sort désigna le douzième mois, c'est-à-dire celui d'Adar. Il est très important de comprendre ce verset, parce que si on passe à côté, finalement, toute la profondeur du texte, toute l'ironie qui va en ressortir plus tard dans les autres prédications que vous aurez, eh bien, on passera à côté. Le premier mois de l'année était le mois donc de Nissan, l'équivalent de notre mois de janvier. C'était le premier mois de l'année du calendrier juif. Et dans ce premier mois, on fêtait la fête de Pâques. Et la Pâques, c'était la fête de la délivrance. Le peuple donc commençait l'année en fêtant la délivrance. Et l'ironie, c'est que le jour où ils doivent fêter la délivrance, c'est ce jour-là où le sort est jeté pour décider de les tuer. Et donc, ils faisaient ça, et les Assyriens faisaient la même chose au début de l'année, donc au mois d'Adar, de Nissan, pardon, excusez-moi, je ne vais pas vous emmêler les pinceaux. Au mois de Nissan, les Assyriens, qui étaient un peuple très superstitieux, jetaient le pour, c'est-à-dire le sort. C'était apparemment des formes de dés, et ils jetaient les dés et prenaient toutes les décisions pour l'année, qui réglaient la vie, les guerres, les événements importants pour la nation, en fonction de ce que désignait le sort. Donc ils tiraient au sort. Et donc ils jetaient le pour. Et le sort décida que le projet d'Aman, celui qu'il voulait soumettre au roi, c'est-à-dire tuer tous les Juifs, se passerait, s'accomplirait le mois d'Adar. Et le mois d'Adar, c'est le dernier mois de l'année. Donc, pour l'année à venir, Aman remet au roi ce sujet-là, disant, ben voilà, j'ai un projet, et ils tirent le sort, ils disent, ben ça se passera le dernier mois de l'année. Et donc, Aman allait devoir attendre un an, donc de janvier à décembre pour nous, un an, pour pouvoir accomplir ce génocide. Et ce génocide comploté par Aman, s'il avait réussi, et ça il faut bien que nous le comprenions, nous n'avons pas affaire à une petite histoire dans la Bible qui serait à côté du grand récit de la Bible. Si Aman avait accompli son plan, qu'il avait fait tuer tous les Juifs de la surface de la terre, pas de Messie. Et vous et moi, frères et sœurs, nous serions toujours dans notre péché. Donc ce qui se trame ici est très important. Et vous verrez que dans deux semaines, je crois, avec Arnaud, il y aura une grande ironie à cette histoire, à ce pour qui est jeté et qui deviendra la fête des Pourim, la fête où le peuple, disons, connaîtra un grand renversement. J'en dis pas plus. Je lis maintenant le chapitre 4. Informé de tout ce qui se passait, Mardoché déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac et de cendres, puis sillonna la ville en criant à pleine voix son amertume. Il alla ainsi jusqu'aux abords de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait le message du roi qui avait valeur de loi, les Juifs menaient grand deuil avec jeûne, pleurs et lamentations. Beaucoup avaient pour lit le sac et la cendre. Lorsque les servantes et ses eunuques vinrent à lui rapporter ce qui se passait, la reine Esther en fut toute bouleversée. Elle fit parvenir des vêtements à Mardoché pour le pousser à s'habiller et à retirer son sac, mais il ne les accepta pas. Elle appela alors Attac, drôle de nom, l'un des eunuques que le roi avait attaché à son service, et le chargea d'aller demander à Mardoché ce qu'il avait et pourquoi il se comportait de cette manière. Attac rejoignit Mardoché sur la place de la ville qui fait face à la porte du roi, et Mardoché lui raconta tout ce qui lui arrivait. Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Aman avait promis de verser dans le trésor du roi pour pouvoir faire disparaître les Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Suse en vue de leur extermination afin qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport en la chargeant de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et plaider la cause de son peuple. Attac vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardoché : tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoquée, n'a droit qu'à un seul verdict : la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. On apporta donc à Mardoché les paroles d'Esther, et Mardoché lui fit répondre : ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait ? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther fit répondre à Mardoché, cette réponse est extraordinaire. « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. » Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Mardoché s'en alla faire tout ce que Esther lui avait ordonné. Quel chapitre encore ? Ce chapitre nous donne, je crois, deux grandes leçons, deux grands points que moi je voudrais souligner ce matin. Le premier est que Dieu est souverain en tout temps. Dans la Bible, quand on parle de la souveraineté de Dieu, on parle de son être. Dieu est souverain, c'est-à-dire que Dieu est celui qui règne. Et quand on parle de sa providence, on parle de ses œuvres. Dieu est souverain et agit dans sa providence. Dieu soutient, conserve, dirige, dispose, gouverne de toutes choses. Des plus grandes, comme on le lisait dans le psaume tout à l'heure avec Rolly, des destins des nations, aux choses individuelles qui sont parfaitement insignifiantes de prime abord. Dieu gouverne absolument toute chose. Rien n'est en dehors, absolument rien en dehors de sa providence. Et comme le soulignait Stéphane la semaine dernière, le nom de Dieu n'est mentionné nulle part dans ce livre, et c'est pour nous faire croire qu'il serait absent. Alors que tout au long du récit, Dieu dirige, dispose et gouverne derrière tous les événements afin de préserver son peuple et de tourner en ridicule ses ennemis. Et comme nous nous sommes rappelés, cette description de Dieu est totalement volontaire, délibérée. En fait, au-delà de ça, c'est du pur génie littéraire de ne pas avoir mentionné le nom de Dieu, car cela va faire sortir encore plus d'ironie de tout ce qui se passe. Et regardons comment Dieu, justement, dans ces chapitres-là, 3 et 4, délivre... va plutôt tourner en dérision les Perses. Est-ce que vous avez constaté, dans le chapitre 3, j'ai essayé dans ma lecture de les faire ressortir, tous ces détails qui nous sont donnés dans la bureaucratie, dans le système législatif, dans la politique, dans l'administration des Mèdes et des Perses? Même si on est français et qu'on a l'habitude, c'est ennuyeux, n'est-ce pas? L'auteur nous en décrit la puissance, la beauté, la complexité de tout ce système d'impôts, de la communication ultra développée qu'il y avait, de plus grand empire de l'histoire. Il veut nous en mettre plein la vue. Mais pourquoi est-ce que l'auteur, qui écrit à des Juifs, se donne-t-il la peine de donner tous ces détails depuis le début du livre? Ce texte a été écrit, premièrement, pour des Juifs qui vivaient sous l'oppression, sous la domination et qui étaient asservis par ce grand empire si puissant. Et à vie humaine, comment défier un si grand empire? Comment défier une telle puissance militaire, une telle puissance politique? Eh bien, ce glorieux empire, son roi, ses comploteurs, ses lois, ses armées vont être ridiculisés au travers d'un tonton et de sa nièce. Voici les instruments que Dieu va utiliser. Et regardez, je voudrais juste revenir sur les quelques éléments que nous avons qui semblent totalement improbables pour accomplir un tel plan. Je vous le rappelle, l'enjeu, c'est de protéger la postérité du Messie à venir, conformément aux promesses que Dieu s'est fixées. Si le roi Xerxès n'avait pas convoqué sa femme, Ashti, sous l'influence de l'alcool, Esther ne serait jamais devenue reine. Qui aurait pu sauver les Juifs? Si Vashti avait accepté de se montrer, elle serait toujours reine. Si les princes avaient conseillé le roi différemment, il n'aurait jamais peut-être fait cet édit qui destitua Vashti et elle serait toujours reine. Je veux bien croire aussi que Esther était très belle, comme le texte nous le dit. Mais elle ne devait probablement pas être la seule. Mais ce jour-là, c'est elle qui a tapé dans l'œil du roi. Si Mardoché n'avait pas tenté de déjouer l'attentat contre Xerxès, ou le roi Assuérus, c'est le même nom, il y a de grandes chances que Esther ne puisse pas retourner voir le roi et que celui-ci ne lui accorde pas au moins un petit peu de crédit, au moins à l'écouter. Mais Mardoché était là le jour où ces deux personnes ont comploté. Si le sort, le pour qui avait été jeté, n'avait pas donné le dernier mois de l'année, Mardoché aurait-il eu le temps de réagir et de prévenir Esther? Vous voyez, tous ces événements-là nous rappellent une chose que Paul souligne merveilleusement bien dans 1 Corinthiens au chapitre 1. Je lis le verset 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour détruire, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Derrière tous ces faits anodins, Dieu gouverne souverainement un roi alcoolique. Dieu contrôle les dés qui sont jetés avec superstition. Et il conduit le tonton Mardoché et sa nièce Esther, bien qu'ils ne soient pas très intègres, comme instrument pour délivrer son peuple. Dieu aime confondre les hommes avec des choses qui semblent bien faibles, afin de les humilier et que sa gloire revienne à lui seul. Dieu ne partage jamais sa gloire, elle lui appartient à lui seul. Et je trouve qu'il y a un immense réconfort pour nous tous. Quand tout semble être hors de contrôle, quand même le peuple de Dieu, à cause de son péché, semble inutilisable, quand tout semble perdu, Dieu est néanmoins à l'œuvre pour accomplir ses plans et remplir ses promesses de triomphe ultime. Et cet enseignement est utile pour nous. D'une manière générale, nous avons tendance à penser que si Dieu ne fait pas quelque chose de surréel, quelque chose plutôt de surnaturel, eh bien Dieu n'est pas à l'œuvre. Et pourtant, nous tous, dans notre quotidien, notre monde ressemble plus à celui d'Esther qu'à celui de la libération d'Égypte. On ne voit pas des miracles et des mers qui s'ouvrent tous les jours, n'est-ce pas ? Mais Dieu est le même. Dieu a choisi de libérer de l'Égypte par les 10 plaies, par une série de miracles prodigieux, et Dieu choisit de délivrer de l'Empire perse par un tonton et sa nièce, tout simplement. Mais Dieu est le même, il ne change pas. Et si nous pensons que Dieu doit faire des miracles pour intervenir, et que s'il n'y a pas de miracle, c'est un signe que Dieu n'intervient pas, nous réduisons à peau de chagrin la souveraineté de Dieu. Et ce n'est pas conforme aux Écritures. Nous devons, au contraire, avoir confiance que dans l'ordinaire du quotidien, Dieu est présent et agit à chaque instant, qu'absolument rien ne lui échappe. Et ça, c'est un immense réconfort. C'est un puissant réconfort pour le peuple de Dieu de partout dans le monde, qui vit des épreuves au quotidien, qui ne vit pas des grandes victoires, mais qui vit un quotidien qui est simplement usant. Et pour ce peuple qui voyait ce grand empire si puissant, l'auteur veut rappeler, vous voyez, ce grand empire, tout ça là, tout ce système, c'est rien dans la main de Dieu. C'est insignifiant. Ça nous amène donc à avoir confiance et à réaliser ce qui se passe. Et c'est le deuxième point que nous allons relever dans ce texte, c'est que l'homme, avec un grand H, peut se ressaisir en tout temps. Esther et Mardoché avaient fait de nombreux compromis, nombreux. Ils faisaient partie de ceux qui étaient restés en exil plutôt que de retourner, alors qu'il y avait eu un édit du roi, plutôt que de retourner participer à la construction du temple. Et le prophète Agé, vous pourrez le lire, avait écrit un livre spécialement pour ces personnes-là, pour leur dire « il faut que vous participiez aussi à la reconstruction du temple ». Ils n'ont en rien tenté de fuir pour éviter le mariage avec le roi païen, violant ainsi la loi de Moïse, mais au contraire, elle a participé à toutes les cures de beauté. Ils n'ont pas révélé qu'ils étaient juifs, contrairement à, par exemple, des personnages comme Daniel et ses amis qui, dans le même royaume, eh bien, priaient fenêtre ouverte pour que tout le monde le voie et refusaient, quitte à se faire tuer, de se compromettre d'un point de vue moral ou spirituel. Bref, Mardoché et Esther étaient des croyants qui vivaient dans le compromis. Mais finalement, j'ai beaucoup plus de facilité à m'identifier à Esther qu'à Daniel. Nous vivons tous, d'une certaine manière, dans le compromis. Mais l'annonce du génocide est un électrochoc pour la foi de Mardoché et d'Esther qui va les pousser les deux à se ressaisir. Et je voudrais qu'on voit comment chacun se ressaisit. Regardez comment Mardoché d'abord réagit. Il encourage Esther à avoir confiance dans l'opportunité de servir que Dieu est en train de créer malgré cette situation dangereuse et compliquée. Pourquoi ? Parce que Mardoché a confiance dans la souveraineté de Dieu. Si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Il est convaincu qu'il va avoir une solution qui va sortir. Mais franchement, si Esther n'agit pas, on se demande bien comment ça va pouvoir se produire. Mais, qui sait ? Peut-être est-ce pour une telle circonstance que tu es parvenu à la royauté ? Mardoché sait que là où Dieu l'a placé, Esther peut servir Dieu. Et c'est un message merveilleux pour nous tous. Nous pensons trop vite que parce que les circonstances sont contraires, nous devrions peut-être abandonner et que nous ne sommes pas dans les plans de Dieu. Et si Dieu ne nous plaçait pas justement dans des situations volontairement difficiles afin que nous le servions, nous ne devrions pas envier qui que ce soit ou se dire que tant que les circonstances n'auront pas changé, eh bien, Dieu ne pourra pas nous utiliser et nous ne pourrons pas le servir. Ça serait renier sa providence d'une certaine manière. Il n'y a aucun endroit où on ne puisse pas servir Dieu. Dieu nous appelle à nous ressaisir et à le servir là où nous sommes. Si Dieu m'a placé là, je peux le servir là. Chers frères et sœurs, je le sais que certains d'entre vous souffrent. Nous souffrons. Peut-être à cause d'un mariage qui est en danger. D'autres parce qu'ils ont fait des compromis dans leur vie professionnelle. D'autres parce qu'ils ont abandonné et cédé dans leur engagement dans leur famille ou dans leur engagement dans l'Église à cause de l'usure. D'autres ont renoncé à toute ambition pour Dieu parce qu'ils se pensent trop loin de ses plans et qu'ils ne peuvent pas revenir à lui. Vous vous pensez peut-être pas assez courageux, pas assez fort pour changer et même pas capable si Dieu vous présenterait un jour une occasion de la saisir. Vous pensez peut-être à votre passé, aux compromissions et vous dites, voilà, c'est trop tard. Mais à vous qui êtes dans cette situation, je voudrais vous dire que malgré tout cela, et c'est les Écritures qui nous le montrent, Dieu peut vous utiliser. Dieu peut vous donner une nouvelle chance de vous ressaisir et de le servir. Et si ce n'était pas pour de telles circonstances que je t'avais placé là? Regardons maintenant la position d'Esther. Esther n'a pas du tout choisi cette situation, mais cette situation s'est imposée à elle. Elle a donc dû réagir et va jusqu'à risquer sa vie. Elle qui vivait comme Mardoché dans cette compromission, elle va jusqu'à risquer sa vie devant l'homme le plus puissant du monde, un homme injuste, nous l'avons vu, et qui sera probablement ivre. Je ne crois pas qu'on le voit une fois sobre, ce roi, dans le livre d'Esther. Si elle avait été tuée, Esther, elle n'aurait été d'aucune utilité. Mais elle dit à Mardoché, si c'est dans ses dispositions, c'est dans ses dispositions que je pénétrerai chez le roi, j'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Dieu l'a réveillée par les circonstances. Elle vit cet électrochoc et elle décide de réagir par la foi, dans la confiance en la souveraineté de Dieu. Et son attitude montre ce changement-là, où elle veut prendre du temps à part dans la prière, dans le jeûne, pour se préparer à obéir à Dieu. Et c'est beau, parce que Dieu n'attend pas que nous fassions nos preuves pour nous donner de nouvelles opportunités de le servir. Mais dans sa providence, il peut créer des situations pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Il est un Dieu de grâce qui donne par les circonstances une nouvelle chance de servir à ceux qui n'ont fait que d'échouer. Si je dois mourir, je mourrai. Quelle détermination qui, pour moi et pour vous, j'en suis sûr, fait écho à une détermination bien plus extraordinaire, à une décision déterminante qui conduisit quelqu'un qui avait le devoir de sauver son peuple, qui était le seul qui pouvait le faire, à aller jusqu'au bout, à sacrifier sa vie pour nous sauver. Et bien sûr, je parle de Jésus-Christ. Lui qui disait « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et plus tard, avant la croix, il dira « Le Fils de l'homme est venu, en parlant de lui-même, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et cette mort de Christ, alors que la mort d'Esther aurait été un immense drame, cette mort de Christ est le triomphe de Dieu. C'est au travers de cette mort que le péché qui est en nous est porté par lui et que sa vie, sa résurrection nous permet d'être délivrés si nous plaçons notre foi en lui de quelque chose de bien plus grave qu'un génocide, qui est la mort éternelle, le jugement de Dieu, l'enfer. Dieu nous offre en Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, la possibilité d'être délivré de cette condamnation. Et c'est ce que Paul dira, il se rappellera ceci, Il, Jésus, s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour des œuvres bonnes. C'est Tite, chapitre 2, verset 14. Quel triomphe en Jésus-Christ. Et l'application pour nous, je pense, est importante. Comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, la manière dont Dieu nous montre son amour, c'est qu'il veut nous changer et qu'il nous donne, à nous qui avons tout raté, des opportunités pour le servir. Comment s'y prend-il ? Par des occasions. Et ce n'est pas parce que nous avons toujours désobéi que nous sommes condamnés à désobéir encore et encore et à rester loin de Dieu. Si vous vivez une situation compliquée à cause d'une compromission passée, vous pouvez être sûr que vous pouvez dire à Dieu, à ce Dieu de grâce, « Pardonne-moi, rends-moi saint, utilise-moi, quel qu'en soit le prix, comme l'a fait Esther. » Et je viens le temps de conclure, et je voudrais souligner maintenant une dernière pensée, je pense, de ce texte. Dans ce récit de la vie Esther, nous devons, et c'est important, trouver le réconfort pour nous tous qui sommes défaillants dans notre obéissance à Dieu et dans notre intégrité. Mais je crois également, excusez-moi de l'expression un peu triviale, mais aussi d'un coup de pied aux fesses pour nous ressaisir. Esther dit, si je dois mourir, je mourrai. Est-ce que sa foi, sa démarche de foi, son désir de se sacrifier pour servir est quelque chose d'unique dans la Bible, de la part des chrétiens ? Est-ce que le cas d'Esther est exceptionnel ? Je lis dans 1 Jean, chapitre 3, versets 14 à 17. « Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? » Paul dit aux Romains, « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière, demande Paul aux Philippiens à propos d'Épaphrodite, et honorez-le, honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été prêt de mourir, ayant exposé sa vie afin de suppléer à l'absence de votre service pour moi. » Est-ce que nous réalisons l'implication qui nous est donnée ici ? Voici où je veux en venir. Si nous laissons la Bible elle-même définir ce qu'est la vie chrétienne, il faut vraiment se remettre en question. Si nous disons que nous aimons Dieu, mais que alors que nous avons le moyen de servir les autres, spécialement nos frères et sœurs, le peuple de Dieu, et que nous ne le faisons pas. Les Écritures nous invitent à un sérieux examen. Si votre amour pour l'Église se limite à simplement venir le dimanche matin et saluer en fin de culte simplement ceux qui vous ressemblent, quelle expression de l'authenticité de l'Évangile dans nos vies. Si nous avons les moyens de servir, l'opportunité qui nous est présentée et que nous ne la saisissons jamais, nous devons nous remettre en question. La foi authentique se manifeste par l'amour du peuple de Dieu. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer le peuple de Dieu et avoir le désir de le servir. Et je voudrais conclure avec cette phrase. Nous pouvons échouer en servant Dieu, mais nous n'avons pas le droit d'échouer à servir Dieu. Amen.